C'est la revue de presse des Hebdo. On dit bonjour à Arlette. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Selon un sondage Via Voice mené par les Assises internationales du journalisme, qui se tiennent cette semaine à Tours, 84% des Français jugent le journalisme utile, mais ils sont 74% à la considérer comme trop anxiogène. Comment est-ce que tu trouves les infos de la semaine dans les Hebdo, Arlette ? Utiles ou trop anxiogènes ?
Eh bien, les deux, mon capitaine. Mais en fonction de ce sondage, je me suis efforcée de découvrir dans les 5 Hebdo que nous lisons, pour vous, chaque semaine, les infos les plus... Ah ben, il m'a d'abord fallu choisir le contraire d'anxiogène parmi les 8 adjectifs proposés par Larousse. Alors, j'ai hésité entre confiant et serein. Ce sera serein qui s'engage moins, qui se tient à une certaine distance. Et il paraît d'ailleurs que les politiques s'en servent pour se défausser lors des questions dérangeantes. « Oh, moi, vous savez, je suis serein. » Alors bon, donc les infos les moins anxiogènes possibles, les plus sereines.
Alors on commence par Télérama.
Dans Télérama, 4 chroniques m'ont donné carrément un sourire serein dans le dossier. La jeune garde des figuratifs nous raconte que les jeunes artistes reprennent le pinceau. Ah, enfin ! On pensait l'art contemporain français cantonné au conceptuel. Eh bien, que nenni ! Les jeunes peintres font un tabac et la valeur de leurs toiles figuratives ne cesse de monter. Une 30aine s'expose au MoCo à Montpellier. On apprend aussi que les jeunes se déconnectent, mais oui, contre l'emprise des réseaux, ils réagissent. Stop à l'overdose. Certains larguent leur smartphone et les échangent contre un téléphone à clapet. Ça a commencé aux États-Unis, évidemment. Une jeune femme, Emma Lemke, vient de créer Tech Nycoli Politics, un groupe qui milite auprès des géants de la tech pour élaborer des applications moins addictives et sans algorithmes. Et puis encore une bonne nouvelle, la découverte d'une nouvelle voix de la chanson française. Ça, c'est pour notre ami Ghislain. Une voix s'élance, titre Odile de Place dans sa chronique enthousiaste. Son premier album à peine sorti, Zao de Sakazan, déboule sur les scènes des festivals. Nourrie de lettres et d'électro, l'autrice, compositrice, interprète, 23 ans seulement, éclaire l'avenir de la chanson française. Alors, je vous confirme, elle est géniale. Son album, La Symphonie des Éclairs, sort justement aujourd'hui.
Ah,
c'est une
bien,
bonne
actualité.
Nouvelle. Hein. Oui, j'ai été écoutée d'abord. Et pour terminer cet aperçu des infos trop cool de Télérama, les femmes prennent en main un genre littéraire très masculin, le polar. Le féminisme s'écrit en noir. Christine Ferniot nous le dit, une nouvelle vague d'auditrices, d'autrices, d'éditrices prend d'assaut le polar. Elle fait des femmes des héroïnes et non plus des victimes.
Et ça, je crois que ça va être plus difficile à trouver dans Le Canard enchaîné.
Certes, mais n'oublions pas que Le Canard assaisonne ses infos les plus anxiogènes d'une bonne dose d'humour, ce qui abaisse leur charge d'anxiété, sans oublier qu'elles sont toujours très utiles. On commence par sourire avec le titre à la une. Il veut se poser en garant de l'ordre et mobilise 13 000 flics. Macron, appelez-moi Manu Militari. Souriez encore en lisant le raid fiscal en piqué sur les banques. Rigolez franchement en lisant dans la chronique Zigzag, le SNU se met à nu. Le SNU, c'est le service national universel censé construire la résilience de l'unité de la nation. Mais vous rirez jaune avec Histoire d'eau, où l'installation des méga-bassines se révèle méga-bérante. Et je vous promets une franche rigolade en lisant la critique de la biographie de Sarah Bernard, Scandaleuse Sarah d'Elisabeth Gousseland. Et l'article intitulé « Laurent Wauquiez, le transparent éloigné », alors si vous n'êtes pas encarté à LR, devrait aussi vous plaire. On sourit encore en refermant Le Canard sur l'album de la comtesse et les perles, sans oublier tous les dessins de presse, évidemment.
Le 1 apporte-t-il des réponses à sa question « Comment sortir de la crise ?»
Eh bien, sinon des réponses, au moins des sujets de réflexion alimentés par des philosophes, des historiens, des politistes. Sur le pouvoir du peuple, par exemple, que définit l'historien Samuel Hayat ainsi. De toute évidence, nier leur légitimité ne suffit pas à renvoyer les citoyens chez eux, tout comme est bien peu convaincant de brandir comme bouclier la légitimité des élus alors même qu'on vient de les priver de débattre et de voter librement sur un texte aussi controversé. Et encore, ce qui fait la validation démocratique d'une prétention à représenter, c'est sa capacité de mobilisation des citoyens. D'où l'importance des élections. L'élection en démocratie n'épuise pas la représentation du peuple. Cela peut passer par de nombreux moyens. La pétition, la manifestation, l'organisation d'assemblées citoyennes. Ce qui importe, c'est que les citoyens puissent librement se mobiliser à l'appel de ceux qui prétendent représenter le peuple pour appuyer ou au contraire invalider ces représentations. Il termine son papier ainsi. En démocratie, la représentation du peuple souverain n'est pas une rente des élus. C'est un pouvoir toujours ouvert de mobilisation de la puissance populaire. Le politiste Vincent Martigny examine de près la façon du président Macron de gouverner. Défendant une conception exclusivement procédurale de la démocratie, le président fait preuve d'une vision étroite et datée du gouvernement représentatif. Et il conclut, citant Chirac, « On ne changera pas la France sans les Français ». Après les réflexions, les examens critiques, quelques conseils. La constitutionnaliste Wanda Mastor conseille d'en finir avec la verticalité du pouvoir et ajoute que mieux répartir les pouvoirs entre l'exécutif et les acteurs territoriaux n'enlève rien à la force du premier. Loïc Blondiaux, autre politiste, conseille, lui, de faire naître une démocratie participative. Pourquoi ne pas institutionnaliser le principe des conventions citoyennes ? C'est dans cette voie d'une articulation entre démocratie parlementaire et participative qu'il faut aller. Il va encore plus loin. Pour parachever cette évolution, il faudrait mettre en place une chambre avec des citoyens tirés au sort qui pourraient prendre la place du Sénat ou se fondre avec le Conseil économique et social et environnemental. Alors j'arrête là. Il y a encore d'autres pistes à découvrir dans ce numéro du 1 qui n'est absolument pas anxiogène, mais comme d'hab, très utile, loin des yaka-faucons.
Garder l'eau, oui, il est possible de préserver, d'économiser, de recycler l'eau douce. En Europe, aux États-Unis et en Afrique, les solutions pour faire face à la sécheresse. Eh bien, dis-moi, Courrier International a décidé aussi d'être plus optimiste qu'anxiogène.
Ouais, garder l'eau, avec l'image d'une seule goutte d'eau sur la couverture. C'est beau ce titre, hein ? Ce numéro du courrier est paru avant les annonces du président Macron hier sur ce même sujet. Alors, les analyses de ses propositions viendront la semaine prochaine, j'imagine. C'est un thème qui nous touche tous. Mais le courrier ne fait tout de même pas l'impasse sur ce qui s'est passé en France. De Paris à Bordeaux, en passant par Sainte-Soline, la semaine dernière a été marquée par des images de violence, par des flammes, des nuages de gaz lacrymogène, par les bilans de blessés et d'interpellés lors des manifestations, par la crispation du pouvoir et la montée des violences policières face à une population dont la colère ne fait que grandir, écrit Claire Carrard en introduction de son édito. En page 10, vous trouverez donc les commentaires de la presse étrangère à ce sujet. Et là, il faut avouer que c'est assez anxiogène. Et la suite de l'édito ne l'est pas moins, à mon avis. Nous faisons désormais face à un risque de 40% de déficit en eau douce d'ici à 2030, avec des pénuries graves dans les régions aux ressources déjà limitées. Alerte-t-on dans un rapport dévoilé le 17 mars, en amont de la conférence des Nations Unies sur l'eau. 2030, c'est demain. Alors rendez-vous page 28 et respirez un peu. Dans le dossier, on peut lire. Des solutions se profilent à l'échelle de communes, de régions, d'État. Parmi celles déjà largement mises en œuvre, certaines ont des conséquences parfois désastreuses pour l'environnement, alors que d'autres, qui recyclent, préservent et économisent l'eau douce, apparaissent plus pérennes. Regardons de près ces solutions. En Grèce, colmater les fuites. En Suède, 3 tuyaux par foyer. L'idée est de moins gaspiller les ressources et de mieux les recycler. En Belgique, le retour aux sources. En Irak, des arbres contre le désert. Au Kenya, une police de l'eau. Hillsburg, la ville californienne qui recycle ses eaux usées. Le service de l'eau de la Californie du Sud compte mettre en place une nouvelle station d'épuration qui assurerait l'approvisionnement en eau potable recyclée les 19 millions d'usagers dans la région de Los Angeles. exemple à suivre certainement. Mais les collectivités locales, plus petites ou celles avec des ressources limitées, n'ont pas besoin de mettre en place des projets pharaoniques pour mieux gérer leurs ressources en eau, explique Anne Thébault, chercheuse au Pacific Institute. Elle souligne, selon le contexte local, les habitants disposent d'une grande marge de manœuvre en matière de réutilisation de l'eau. Quant à la France, vous découvrirez l'enquête menée par Annika Joerès, publiée le 4 mars dernier dans Die Zeit de Hambourg. Un chouïa anxiogène quand même, parce que la France est très en retard sur la réutilisation des eaux usées traitées. En France, seulement 1% des eaux usées sont recyclées, contre 90% en Israël, 20% en Espagne ou encore 8% en Italie, même si elle augmente en France, mais le compte n'y est pas. Avec 8,4 milliards de mètres cubes d'eau usée traitée chaque année en France métropolitaine, le potentiel est pourtant important. Allez, tout n'est pas encore désespéré.
Et dans l'Express, du serein ou de l'anxiogène ?
En regardant la couve, c'est pas évident. TikTok, l'ennemi public. Pas de point d'interrogation, juste une affirmation. Alors examinons le sommaire. Sur TikTok, un édito. Alors il faut que vous sachiez que les éditos sont très nombreux dans l'Express. Mais enfin là, c'est celui qui est dédié à TikTok. TikTok, la star des ados dans la tourmente. Les Américains et les Européens sortent l'artillerie lourde contre le réseau préféré des jeunes. Un récit, TikTok, ses recettes pour rendre accro les ados. Livres, actualités et doomscrolling. Tu sais ce que c'est que le doomscrolling ?
Pas vraiment, non.
C'est la frénésie de regarder les actus qui parlent des catastrophes.
Ah oui, d'accord.
Hein ? Voilà, c'est vraiment quand on regarde ce qui a le plus crash, le plus... Bon, bref. Mais dans le décryptage, on relativise. TikTok entre la Chine et les États-Unis, la grande partie de poker menteur. Dans l'affaire TikTok, tous les camps font preuve d'une bonne dose de mauvaise foi. Dans le gros plan, on découvre que TikTok serait l'arme préférée de Mélenchon. Faire un TikTok, c'est un art, plastronne-t-il du haut de ses 2 millions d'abonnés. Et c'est pas terminé. Maxime Recoquiller analyse, attractif pour les jeunes et les marques, le réseau social s'est transformé en une véritable machine à cash. Burger King, Deezer, Carte Noire, TikTok, nouvel Eldorado des annonceurs. Le Sénat a même lancé une commission d'enquête autour du réseau social chinois. Son rapporteur, Claude Maluret, constate que sur le dossier TikTok, les Occidentaux sont d'une naïveté confondante. Eh bien, en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'anxiogéniser. Plus que de raison, j'adore les néologismes.
Encore un brin de fantaisie avec l'horoscope de Rob Bresny, celui dédié à celles et ceux qui sont nés sous le signe du taureau.
Tu as fait tout ce qui était pour l'heure possible pour nettoyer un karma encrassé. Un karma en partie hérité de la vie et de tes mauvaises habitudes passées. Il se peut, taureau, que tu aies un jour encore un brin de ménage à faire, mais sache que dès aujourd'hui, tu seras plus libre que jamais de ton passé et de tes conditionnements. Poisson d'avril, je t'ai bien eu. En vérité, il te reste vraiment un brin de ménage à faire, mais tu y es presque.